Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Coupe du monde de football 2018 en Russie. Le Portugal mène 1-0 sur le Maroc à la mi-temps dans le premier match de la journée au stade de Luzhniki à Moscou. Un but de Cristiano Ronaldo à la 5e minute de jeu. Après une défaite dans leur première rencontre, les Lions de l'Atlas marocain ont le dos au mur. Ils doivent absolument réagir s'ils veulent rester dans la compétition. La deuxième rencontre de la journée, Uruguay-Arabie Saoudite à 15h temps universel à Rostov-sur-le-Don. Le troisième match, Iran-Espagne à 18h temps universel à Kazan. Nous retournerons à la Coupe du Monde en fin de journal pour une analyse des retombées du Mondial 2018 pour le pays organisateur, à savoir la Russie. Afrique centrale, l'Assemblée nationale et le Sénat de la RDC sont convoqués en session extraordinaire ce mercredi pour examiner, à la demande du président Joseph Kabila, une loi sur le statut et la protection d'anciens présidents de la République démocratique du Congo. La proposition de loi portant statut d'ancien président traîne depuis 3 ans sans être examinée. Cette législation est une initiative du sénateur Modeste Moutinga du groupe des 7 partis frondeurs, le G7, qui avait quitté la majorité présidentielle en septembre 2015. L'Assemblée nationale compte examiner aussi le rapport annuel de la commission chargée d'organiser les élections en RDC et le dossier relatif au remplacement de certains membres de cette commission. Toujours en RDC, mauvaise nouvelle pour le mouvement citoyen Filimbi, la détention provisoire de 5 de ses militants pro-démocratie poursuivis pour outrage à la personne du chef de l'État Joseph Kabila a été prolongée de 15 jours. Les détails avec Eddy Sango.
Le tribunal d'Engaliema a statué pour prolonger de 15 jours leur détention. L'audience a eu lieu devant la chambre du conseil à la prison de Makala, le plus grand centre pénitentiaire de Kinshasa où ils sont détenus depuis le 9 juin. La cour a rendu un jugement en faveur du parquet alors que la défense a plaidé pour une libération provisoire, dénonçant par ailleurs une détention irrégulière. Les 5 militants ont été présentés au parquet après plus de 5 mois de détention sans charge ni assistance judiciaire, ni droit de visite dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements. Leur leader, Carbone Beni, âgé d'une 30aine d'années, avait été hospitalisé récemment. Ses proches affirment qu'ils ont reçu des mauvais traitements pendant leur détention. Carbone Beni, Mino Boponi, Cédric Kalonji, Grace Chunza et Palmer Kabea ont été arrêtés fin décembre. Ils mobilisaient pour la marche des catholiques du 31 décembre pour demander au président Kabila de quitter le pouvoir.
Crise au Soudan du Sud. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est arrivé ce mercredi matin à Addis Abeba en Éthiopie où il doit rencontrer le président du Soudan du Sud Salva Kiir pour la première fois en 2 ans. Objectif, tenter de ramener la paix dans leur pays ravagé par la guerre civile depuis 2013. Confirmé de sources officielles, l'entrevue demeure incertaine au regard des nombreux rendez-vous manqués et vaines promesses qui ont émaillé les pourparlers de paix. Corne de l'Afrique, le président de l'Érythrée, Isaias Afwerki, a annoncé ce mercredi l'envoi prochain d'une délégation en Éthiopie pour discuter d'une paix entre les 2 ennemis jurés. Et ce, en réponse, dit-il, aux signaux positifs émis par le nouveau premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Monsieur Abiy avait amorcé début juin un profond changement de politique en annonçant son intention d'appliquer l'accord de paix signé en 2000 avec l'Érythrée et la décision 2 ans plus tard d'une commission internationale indépendante sur la démarcation de la frontière commune qui donnait la ville symbole de Badme à l'Érythrée.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Nous passons à l'Afrique de l'Ouest. Les services de sécurité du Burkina Faso ont publié ce mercredi les noms de 146 personnes activement recherchées pour appartenance au groupe djihadiste Ansarul Islam et pour des actes ou complicité d'actes terroristes. En tête de liste figure Abdul Salam Diko, alias Jafar, présenté comme le leader actuel du groupe Ansarul Islam, très actif dans le nord du Burkina Faso. Au Mali, les autorités ont reconnu mardi l'implication de militaires dans des violations graves et occasionnées. Mort d'homme à Nantaka et Kobaka après la découverte de forces communes dans le centre du pays. Elles se disent prêtes à en assumer les conséquences. Les corps de 25 personnes ont été retrouvés ces derniers jours dans la région de Mopti, une semaine après une série d'arrestations par l'armée malienne. Le ministre malien de la Défense, Siena Koulibaly, dit avoir instruit au procureur militaire d'ouvrir une enquête judiciaire. Monsieur Koulibaly a également réitéré sa ferme volonté de lutter contre l'impunité. Les résultats de cette enquête seront examinés avec toutes les conséquences que nous assumerons, a affirmé pour sa part le président malien Ibrahim Boubacar Keïta en recevant mardi soir à Bamako des membres d'associations de défense des droits humains. On reste au Mali où une femme se lance dans la course à la présidence. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est candidat à sa propre succession, mais il fera face à de nombreux concurrents d'une opposition dispersée. Au micro de Kadi Traoré, on écoute Madame Kanté Denaba Ndiaye, candidate déclarée à la présidence du Mali.
Je me suis présentée parce que je ne vois pas de différence entre hommes et femmes. Je ne vois pas trop de différence. L'homme peut gérer bien, la femme peut aussi bien gérer. C'est pour cela que je voudrais quand même mettre un peu de changement pour dire aux hommes que la femme aussi peut mieux faire. C'est quand même la décision de Dieu. Je ne vois pas de difficultés. Je ne vois pas du tout de difficultés. C'est quand même un pays qui fait déjà que tout ce que l'homme peut faire, la femme peut faire plus mieux. Donc c'est pour cela que je voudrais quand même montrer à tout le monde que j'ai décidé. J'ai confiance à moi et puis j'ai confiance à toutes les femmes.
Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau dans la gestion politique malienne?
La paix entre les hommes politiques, la paix. Nous sommes des Maliens, qu'on se donne d'abord la main. On se donne la main, je viens avec la paix. Parce que sans la paix, il n'y a rien. Moi, en tant que femme, entre les hommes politiques, je veux qu'on se donne la main, nous tous, pour venir d'abord avec la paix.
Madame Kanté Denaba Ndiaye, candidate déclarée à la présidence du Mali. Retour à la Coupe du Monde 2018. Pour la Russie, le mondial en cours a été le plus onéreux de l'histoire. Des milliards de dollars dépensés pour des stades géants, de nouveaux chemins de fer, des aéroports plus modernes et aussi pour redorer le blason du président russe Vladimir Poutine. Mais que peuvent en tirer les citoyens russes? Reportage de Henry Ridgewell, récit Gabi Dorsil.
Officiellement, la Russie a dépensé près de 3 milliards de dollars dans la construction ou l'amélioration de stades et au moins 8 milliards dans d'autres infrastructures. Mais le jeu en valait-il la chandelle? Écoutons le professeur Leonid Grigoriov du Centre d'analyse russe pour la gouvernance.
The discussion of efficiency of a championship in Russia.
La discussion sur l'efficacité du championnat en Russie, comme au Brésil, est comme celle sur la valeur économique d'une robe de mariée. Elle est nécessaire, elle rend tout le monde heureux, mais la valeur économique exacte ne peut être définie par un rapport trimestriel. Cela doit se faire sur le long terme. Nous espérons devenir non seulement un pays de hockey, mais aussi un pays de football.
Le Brésil avait dépensé 11 milliards de dollars pour organiser le Mondial 2014. 4 ans après, de nombreux fans qui y ont assisté ont du remords. C'est le cas de Márcio Pessoa, un fan du Brésil.
Si on compare le Brésil et la Russie, l'infrastructure est supérieure ici.
Moscou n'a jamais vu autant de touristes. Ils dépensent des milliards de roubles pendant la Coupe du Monde. Cependant, la Russie espère que cette compétition aura des retombées économiques positives sur le long terme. Pour l'instant, il s'agit de rehausser l'image du pays face au monde à un moment où il est sous sanctions internationales à cause de l'annexion de la Crimée et du soutien à la guerre en Ukraine. Écoutons Dimitri Oreshkin, un analyste politique.
Vladimir Poutine, par cette démonstration de force, prétend que, malgré les sanctions, la Russie peut offrir au monde un bon mondial. Malgré les sanctions, nous poursuivrons la guerre en Syrie. Et cela plaît aux gens jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils en font les frais économiquement.
Les premières victimes seront les personnes d'âge moyen. Le jour de l'ouverture de la Coupe, le gouvernement a annoncé que l'âge de la retraite passera graduellement de 60 à 65 ans pour les hommes et de 55 à 63 ans pour les femmes. Pour Eva, 62 ans, la plupart des Russes encaissent, sans mot dire.
Ce n'était pas totalement inattendu. Peut-être qu'ils croyaient en atténuer l'effet avec l'euphorie du championnat. Ici, on blague en disant « Hier, il me manquait 4 ans pour la retraite. Aujourd'hui, c'est 9 ans. Et on me dit qu'on ne peut pas retrouver sa jeunesse. »
Moscou présente le Mondial 2018 en partie comme un cadeau à sa jeunesse. Des souvenirs inoubliables et des installations flambant neuves. Les années à venir diront si Russie 2018 était un succès réel pour le pays.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.